J'aimerais partager avec vous une réflexion sur un livre de la Bible, le livre de Job. Un livre qui se trouve au milieu de nos Bibles, grosso modo, et que j'intitulerai « Un message de Dieu pour ceux qui souffrent ». Le livre de Job, à mon sens, est construit comme une pièce de théâtre. Il y a un prologue avec un décor. C'est la salle du trône de Dieu. À la fin, il y a un épilogue, heureux, le rétablissement de Job. Il reçoit le double de ce qu'il avait précédemment. Et puis, on pourrait diviser le reste en trois actes. Acte 1, les trois amis de Job. Éliphaz, Bildad, Tsophar. Acte 2, un quatrième ami qui vient à la rescousse, Élihu. Et acte 3, Dieu apparaît à Job. En fait, l'acte 3 pourrait être avant l'acte 2, mais Dieu apparaît à Job. Et il fait défiler devant lui les animaux effrayants de la création. C'est comme cela que se construisent nos tragédies, que ce soit les tragédies grecques ou celles bien connues de Shakespeare, Racine, Corneille. Mais ce livre est beaucoup mieux qu'une tragédie humaine, parce que c'est d'abord la parole de Dieu. Elle nous renseigne sur certaines choses que nous ne connaissons pas forcément de façon naturelle. Alors, on dit dans notre langage courant « pauvre comme Job ». C'est passé dans notre langage de tous les jours. Il faudrait peut-être dire aussi « riche comme Job », car Job était un homme assez riche avant qu'il ne perde tout. Et puis, il retrouve ensuite une grande richesse. Mais entre les deux, il y a un effondrement, comme ça arrive à beaucoup de personnes. Soit qu'on perd d'un seul coup sa santé, et on peut la perdre définitivement jusqu'à la mort, à un âge où on ne s'attend pas que les gens meurent. Soit qu'on peut perdre aussi une richesse matérielle. J'ai vu tout dernièrement et passé à la télé un peu en boucle, je ne sais plus, mais enfin peu importe, l'histoire de ce député aujourd'hui, je crois que c'est Michel Poujol, un député socialiste qui a écrit un livre, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs aujourd'hui, et qui un beau jour, avant qu'il soit député, a tout perdu, son travail, donc son argent, sa maison. Il était obligé de se réfugier dans un cabanon au fond du jardin avec ses enfants où il n'y avait plus pas d'électricité, pas d'eau, pas d'argent pour vivre. Ça arrive encore aujourd'hui, il y a des gens qui dorment dans leur voiture ou qui dorment dans le hall d'un immeuble parce qu'ils ont tout perdu alors qu'ils avaient une profession assez stable. Et puis je me souviens aussi de ce couple catholique qui témoignait de sa foi, qui est allé passer quelques jours de vacances en Thaïlande, je crois que c'était en 2004. En décembre 2004, il y a eu ce terrible tsunami qui a tout balayé sur son passage. Ils étaient dans un hôtel et leurs enfants, trois ou quatre enfants, jouaient au rez-de-chaussée ou au sous-sol de cet hôtel. Eux étaient en hauteur et bien sûr, quand le tsunami est passé, il a tout dévasté. Et leurs enfants sont morts. Il n'est resté qu'un seul de leurs enfants tout petits, un petit bébé qu'ils avaient dans leurs bras avec eux. Trois ou quatre enfants qui disparaissent comme cela. Ces choses-là arrivent, sont des choses qui arrivent autour de nous. Nous en sommes malheureusement les témoins. Alors c'est vrai que peu d'hommes ont souffert comme Job. C'était terrible pour lui. Mais cela arrive aussi et de telles tragédies sont impressionnantes. Et on se demande comment les gens peuvent survivre à de telles épreuves. La Bible est le livre des tragédies, des souffrances extrêmes, des guerres, des luttes fratricides. Tous les drames humains que l'on rencontre aujourd'hui, depuis les guerres, les génocides jusqu'aux drames familiaux, sont contenus dans la Bible. Et bien sûr, le drame peut-être le plus terrible, c'est celui du Fils de Dieu, de Jésus, qui, innocent, meurt, souffre d'abord terriblement et meurt sur une croix. Alors, si vous prenez la Bible donc au tout début du livre de Job, je crois que c'est page 350 pour ceux qui ont la Bible qui se trouve là-bas au fond de cette salle. Job chapitre 1. L'auteur fait intervenir deux razzias terroristes, des Sabéens et puis des Chaldéens. Ensuite, une catastrophe naturelle du style ouragan ou cyclone qui détruit la maison où sont réunis les enfants de Job et les tue. Et puis en dernier lieu, la maladie. Et tout cela fait qu'en un jour, Job a tout perdu. C'est bien ses enfants, 7 fils et 3 filles. Et il avait de biens considérables, un cheptel assez considérable. Tout ce qu'il avait patiemment construit au cours de sa vie, tout cela, en un instant, est parti. Ce livre, bien sûr, traite de la question de la souffrance ou du mal. Le théologien Henri Blocher dit que c'est le mystère opaque de l'Écriture, c'est-à-dire que ça reste mystérieux, on n'arrive pas à percer ce mystère quand on essaie de répondre à la question « pourquoi le mal ?» et c'est un mystère opaque, donc très 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 dense. Pourquoi souffrons-nous ? Pourquoi certaines personnes souffrent plus que d'autres ? Nous n'avons pas de réponse satisfaisante à cette question. La Bible ne nous en donne pas. Et quand bien même nous essaierions d'en trouver, je sais qu'il y a quelques pistes ou quelques peut-être essais de réponse, tentatives de réponse chez Ézéchiel, lorsqu'il est question de cet astre brillant, fils de l'aurore, qui a été précipité, etc. Nous n'avons pas de réponse à cette question. Pourquoi le diable existe-t-il? Pourquoi Dieu permet-il le mal? Un jour, nous saurons sans doute, mais pas sur cette terre. Mais le livre de Job est la réponse de Dieu à cette question. Pourquoi le mal? Et on s'aperçoit vite que Job ne peut se satisfaire de réponses humaines et que d'une certaine façon, quand Dieu répond à Job pour lui apporter la réponse que Job attend tant de Dieu, j'aurais envie de dire, mais c'est peut-être un peu impropre de ma part, puisqu'il est question de Dieu, que Dieu botte en touche. Dieu ne répond pas directement à la question de Job, mais il fait défiler devant lui les animaux redoutables de la création en lui disant « Mais étais-tu là quand j'ai créé le monde? Étais-tu là quand j'ai fait tout cela? Ne doute donc pas de ma puissance, de ma grandeur. Et puis aussi, qui es-tu pour comprendre toutes ces choses? Tu es trop petit, trop insignifiant. » Voilà un homme qui perd ses enfants, donc il en avait 10, 7 fils et 3 filles. C'est bien, son cheptel est impressionnant, au chapitre 1, verset 3. Pour finir, sa santé, en l'espace d'une journée. Nous avons un peu là l'unité de temps qu'on a dans les tragédies. Tout s'acharne contre lui. Et les malheurs tombent sur lui comme les pièces d'un domino les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne lui reste qu'un tesson de bouteille pour se gratter. Et sa femme. Mais sa femme, au lieu d'être une aide, souvenez à la création, « Je te ferai une aide semblable à toi. » Sa femme, au lieu d'être une aide, l'incite à maudire Dieu et à mourir. Parce que pour elle, maudire Dieu entraîne la mort. C'est l'une des deux mentions de sa femme dans ce livre de Job. L'autre mention est au chapitre 31, au verset 10. Et cette mention est loin d'être encourageante. Mais je dirais que cette pauvre Madame Job exprime par ces mots sa vive douleur. Il y a beaucoup de révolte de la part de Job dans ce livre. Et je suis heureux que Job ait cette liberté de s'adresser avec son cœur à Job, à Dieu, pardon. Ce livre commence dans la salle du trône de Dieu, où l'on rencontre l'ennemi redoutable, un ennemi redoutable, celui que nous connaissons, le diable, appelé Satan. Job a un ennemi qui a le pouvoir de lui faire du mal, mais jusqu'à un certain point seulement. Ici, le point, c'est la lisière de la mort, avec l'autorisation de Dieu. Satan demande à Job l'autorisation d'attaquer Job, l'homme intègre, et il obtient cette autorisation. Satan, en hébreu, ça veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose. Le Nouveau Testament utilise un autre mot, le mot diable, diabolos, qui veut dire celui qui divise, qui sépare. Et c'est bien ce que le diable essaie de faire. En général, il s'oppose à Dieu et il essaie de diviser les hommes de Dieu. Et on voit au premier chapitre que Satan est l'instigateur du mal. Mais on voit aussi que ce que nous savons en tant que lecteurs, Job, lui, ne le sait pas. Il ignore tout ce qui se trame au ciel à son égard, derrière son dos. Ce dont nous sommes mis au courant par l'auteur du livre. Mais Job n'en est pas conscient. Comme nous ne sommes pas conscients lorsque nous sommes attaqués de toutes les forces que Dieu permet à notre égard. Nous en subissons les effets, mais nous savons que le diable existe et qu'il nous veut du mal. D'où vient-il? Pourquoi Dieu le laisse-t-il agir? Ce sont des questions auxquelles la Bible ne répond pas. L'apôtre Pierre écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et puis une parole d'espérance, Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11, « Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Ils l'ont vaincu. Ils, ce sont ceux qui ont résisté dans la persécution, qui ont tenu ferme et qui sont restés fidèles. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, c'est vrai, il ne faut jamais l'oublier, nous avons un ennemi. Et cet ennemi a un certain pouvoir ou un pouvoir certain. Et le pouvoir extrême qu'il a encore aujourd'hui, c'est de nous faire mourir. Et puis Job a des amis que j'appelle des amis décevants. Trois amis, formidable d'avoir des amis, qui se précipitent lorsqu'ils apprennent que Job a tout perdu. C'est extraordinaire de se porter au secours comme cela tout de suite. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque et ils ont dû faire un long chemin pour arriver jusqu'à Job. Mais au fil de leurs interventions, ils deviendront des accusateurs. Ils ne feront qu'enfoncer encore plus Job dans sa solitude. quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, que ce ne sont pas de ses amis qu'il se méfie, que de ses ennemis qu'il se méfie, mais c'est de ses amis. Les têtes des chapitres données par une autre traduction de la Bible sont éloquents. Trois amis de Job viennent le consoler. Piètre consolation. On pourrait résumer ainsi l'intervention du premier, Eliphaz. Heureux l'homme que Dieu reprend. Heureux l'homme que Dieu reprend. Autrement dit, ta souffrance est nécessaire, elle est salvifique. Elle t'amènera au salut. Intervention de Bildad, le deuxième ami. Les fautes se paient tôt ou tard. Si tu souffres, c'est parce que tu le mérites. Cherche bien. Tu penses être innocent, mais peut-être n'as-tu pas bien vu dans ta vie ce qui a irrité Dieu et la punition qu'il t'inflige. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans notre tête ou dans celle de nos contemporains. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me punisse de telle façon? Et puis intervention du dernier, de Tsophar, revient à Dieu, comme si Job avait abandonné Dieu, comme si Job s'était éloigné de Dieu. Reviens à Dieu. Et Job ne peut dire que cette parole, les gens à qui je confiais mes secrets m'ont en abomination. Ceux que j'aimais se sont retournés contre moi. Oui, en tant qu'amis, nous pouvons parfois aussi être de piètres amis, de piètres consolateurs. Chapitre 19, verset 21, Job dit ceci à ses amis, « Faites-moi grâce, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Faites-moi grâce. » Alors, ces amis de Job ne sont vraiment pas à la hauteur. Leur attention était excellente. Ils viennent pour le consoler et ils se retournent contre lui. Ils sont prisonniers de leur schéma trop rigide. C'est pas facile de consoler, d'encourager un ami qui passe par une très grande souffrance. J'ai un ami qui est en train de perdre sa femme. Certains le connaissent, c'est Jacques Buchold. Sa femme, qui avait un cancer, qui a un cancer depuis une trentaine d'années, aujourd'hui, il n'y a plus de traitement chimiothérapie possible. Donc, tous les traitements étaient abandonnés. Elle peut à peine se lever, tout juste un peu pour faire sa toilette. Ses forces partent petit à petit. Pensons à eux. Proverbe, chapitre 17, verset 17, un verset que j'aime bien. L'ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Ici, un frère est plus proche qu'un ami dans cette traduction. Et Jésus dit à ses disciples, Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Oui, le Seigneur est cet ami véritable sur qui l'on peut toujours compter. Il connaît, lui, nos peines et nos épreuves. Il les prend même sur lui. « Déchargez-vous sur lui !» de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5,7. Alors prenons exemple sur le Seigneur. Déjà, l'avoir pour ami, c'est formidable. Mais prenons exemple sur lui, et non sur les amis de Job, qui deviennent des accusateurs. Job passe par une nuit terrible. Mais au cœur de cette nuit, il a comme une révélation fulgurante. C'est un peu, vous savez, quand on est dans un gros orage où le ciel est noir et il est assombri, et les orages noirs, et d'un seul coup, un éclair vient illuminer l'horizon et C'est très net, mais ça dure une fraction de seconde. Job, chapitre 19, verset 25. Une parole qui a la fulgurance d'un éclair dans la nuit la plus noire. Job a cette parole, qui est une parole de révélation extraordinaire. Il dit, « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète » les autres traductions utilisent le mot de « rédempteur ». « Celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. » Je crois qu'il n'y a qu'une révélation de Dieu, du Saint-Esprit, qui a pu faire dire à Job ces paroles extraordinaires. Celui qui me rachète, il a conscience que ses péchés doivent être rachetés. Et le Nouveau Testament nous dit, 1 Pierre 1,18, « Vous avez été rachetés, Jésus nous a rachetés, le prix qu'il a payé, c'est celui de sa vie qu'il a donné pour nous, lui le juste, qui est mort pour des injustes. » Ce mot qui est utilisé, ce mot de rédempteur, c'est celui qui libère d'une obligation légale, celui qui se substitue à quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et Job le pressentait, Job a eu déjà ce pressentiment. « Je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. » Alors que ses amis le déçoivent, il sait qu'il a un rédempteur, un défenseur qui le soutient et qui va lui redonner la vie. « Quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu, je le contemplerai. » Quelle parole extraordinaire! Et cet éclair fulgurant dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, devient une lumière qui éclaire le monde par la présence de Jésus sur terre, par les épîtres de Paul, par l'enseignement du Nouveau Testament. Tout cela pour nous aujourd'hui est devenu une lumière, et Ésaïe l'avait aussi prédit en disant « Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre, une lumière resplendit !» Et cette lumière qu'il voyait poindre à l'horizon, c'était la venue de Jésus. Alors, dernier point, une espérance radieuse. La fin du livre de Job se termine par un message d'espérance extraordinaire. Et je crois que c'est sa façon, à l'auteur de ce livre de Job, en tant que personnage de l'Ancien Testament, il ne pouvait pas faire autrement. C'est sa façon de nous dire qu'il y a une espérance après la mort, qu'il y a l'espérance de la vie éternelle. Job retrouve le double de tous ses biens. Il avait 7000 brebis, il en retrouve 14000. Il avait 3000 chameaux, il en retrouve 6000. Il avait 500 paires de bœufs, il en retrouve 1000. Il avait 500 ânesses, il en retrouve 1000. Alors je ne sais pas pourquoi il compte les ânesses et pas les ânes. Je suppose que s'il avait des ânesses, il devait avoir aussi des ânes. Mais bon, tous ces chiffres sont gigantesques. Pour nous montrer à quel point c'est disproportionné par rapport à ce qu'il avait précédemment. Il avait 7 fils et 3 filles, mais il ne retrouve pas, en tout cas sur la terre, 14 fils et 6 filles. Il en retrouve le même nombre, 7 fils et 3 filles. Pourquoi ? Moi, je crois que c'est parce qu'ils n'avaient pas perdu les précédents. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et de ce fait, il avait 14 fils et 6 filles. Il n'était pas perdu. Dieu les avait auprès de lui. Oui, en mentionnant que Job reçut le double de ses biens d'avant sa terrible épreuve, l'auteur du livre de Job nous parle de notre espérance qui est le, selon l'expression du livre des Actes, au chapitre 3, au verset 21, le rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses. Nous sommes dans un monde cassé, un monde où règne le péché, où le diable a encore un pouvoir, bien qu'il ait été vaincu sur la croix. La mort existe toujours, la maladie aussi, la pauvreté, la tristesse. Mais quelle espérance de savoir que Dieu rétablira toutes choses dans son royaume. Ceux que nous avons perdus sont au Seigneur s'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et le livre de l'Apocalypse nous dit, chapitre 8, verset 9, « Je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. » Je crois qu'on sera bien plus nombreux qu'on ne le pense, et il y aura sans doute bien des surprises. Je conclue. Il me reste 5 minutes si ma montre ne s'est pas arrêtée depuis tout à l'heure. Nous avons un adversaire qui s'oppose à Dieu et qui veut notre peau, au sens propre du terme, un peu peut-être au sens figuré aussi, mais surtout au sens propre. Car Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent vous tuer, craignez plutôt ceux qui peuvent tuer votre âme, la vie que vous avez en vous. Par un mystère que nous ne pouvons pas percer ici-bas, un jour, il l'aura, notre peau. D'ailleurs, il l'a peut-être déjà, ça se voit par nos rides, par nos cheveux blancs. Avec la permission de Dieu, il ne fait rien sans la permission de Dieu. Mais notre peau n'est pas notre vie. Nous sommes dans la main de Dieu. Rien ne se fait sans sa volonté. Et cette vie, la mort ne peut pas l'arrêter. C'est une vie éternelle qui se poursuit dans la présence de Dieu. Deuxièmement, il est difficile d'être un ami, un frère, une sœur. On peut faire du mal tout en voulant faire du bien. On est parfois maladroit, parfois on ne sait pas ce qu'il faut dire, parfois on n'est pas à la hauteur. On peut blesser. Mais Jésus est l'ami suprême et il veut nous aider à être de véritables amis qui se montrent comme des frères. Même Jésus s'est senti délaissé par les siens au moment où il avait le plus besoin de ses disciples à Gethsémané. Jésus nous a envoyé le Consolateur, notre Défenseur, notre Rédempteur aussi. Dans la souffrance, Job se retrouve seul, seul avec un Dieu qui reste longtemps silencieux, qui lui apparaît enfin, mais qui ne donne pas la réponse que Job attendait. Mais après cette présence de Dieu, Job ne peut que s'écrier, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Cet éclair fulgurant dans la nuit noire de l'épreuve s'est transformé pour nous qui vivons à une autre époque en une aurore boréale. Dans le Nouveau Testament, l'espérance de la vie éternelle est omniprésente. Alors je conclus par ce verset de Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. « Pour nous, écrit l'apôtre, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toute chose. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce livre, pas toujours facile, de Job. Merci pour le message d'espérance, le coin du voile aussi qui est un peu levé, qui nous montre que nous avons un ennemi qui nous veut du mal, mais que toi tu l'as vaincu parce que tu es notre Rédempteur. Merci d'être notre ami suprême, notre ami qui se tient là, dans notre souffrance, dans nos épreuves, dans nos difficultés. Merci aussi pour l'espérance. Et s'il y a une espérance au-delà de la mort, il y a aussi une espérance sur cette terre. Car tu sais aussi redonner espoir à ceux qui souffrent. Tu sais aussi te tenir là, dans la douleur, comme celui qui soulage, comme celui qui guérit, comme celui qui délivre. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu es pour nous. Merci aussi parce qu'un jour, nous serons avec toi dans ton éternité. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis encore chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas logés à la même enseigne lorsqu'il s'agit de souffrances, d'épreuves ou de douleurs. Mais toi, tu sais toutes choses. Et tu es là, jour et nuit, à nos côtés. Gloire te soit rendue. Amen.